Donc d'abord, avant de commencer cette présentation, je tiens à remercier en particulier Pierre Arnoulle, avec qui j'ai travaillé pour réaliser cette étude. Et donc, nous nous sommes appuyés, surtout Pierre, sur les documents que Hubert Bergeret lui a fournis. Donc Hubert Bergeret était donc le petit-fils du fondateur, est toujours, parce qu'il est toujours vivant, pardon, le petit-fils du fondateur de l'entreprise Noirot, de la distillerie, et donc il a accepté d'ouvrir ses archives. Et le Bergeret est aussi pharmacien, il a exercé à Annecy en particulier. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne les connaissent pas, mais je pense que tout le monde a déjà croisé ces petits flacons qui ressemblent à des mignonnettes. J'en ai pas apporté, j'ai oublié. C'est un petit flacon qui fait à peu près une dizaine de centimètres de haut, qui est vraiment tout petit. On a l'impression que ce sont des mignonnettes, des doses d'essai, des échantillons. En réalité, ce ne sont pas du tout des échantillons. Ce sont des flacons destinés à la vente parce que ce sont des extraits concentrés de plantes qui permettent de fabriquer des alcools. Par exemple, il suffit de prendre un extrait donc, végétal en question, là, de noireau, de le verser dans un litre du vin de son choix, pour obtenir, par exemple, ici, de l'extrait, un litre de vin au quinquina, tonifiant, fortifiant, et tout ce qu'on veut. Donc, dans les catalogues de la distillerie Noirot, il y a comme ça une énorme variété de flacons, d'extraits qui sont proposés pour réaliser ces vins à domicile. Il a fallu pour ça que les distillateurs se reconvertissent un petit peu en quelque sorte dans leur pratique habituelle, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, ils étaient distillateurs, et puis petit à petit, les gens ont décidé de faire leurs alcools eux-mêmes, et les distillateurs ont essayé de prendre un autre créneau pour que les gens leur achètent des préparations de façon à augmenter un petit peu leur vente. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu ces mignonnettes de réaliser. Alors, pour quelles raisons nous avons décidé d'évoquer cette distillerie qui a priori n'a rien de pharmaceutique donc pendant ces journées. D'abord, qu'est-ce que c'était que cette industrie implantée à Nancy pendant près d'un siècle? Je viens d'évoquer un petit peu ce qu'on faisait avec ces flacons, mais d'autres choses à raconter. Et surtout, quels étaient donc ces liens avec le monde pharmaceutique, avec l'industrie pharmaceutique, avec les officines. Alors, pour commencer, on va parler du fondateur. Le fondateur s'appelait Théodule Noirot, d'où l'intitulé des extraits Noirot, et bien souvent les extraits T Noirot, T pour Théodule, qui est né en 1863. Et donc voici l'extrait d'acte de naissance. On voit qu'il est né à Grès, donc il est en Lorraine. Comment ? En Franche-Comté. Oui, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur. C'est pour voir si vous suivez. Oui, c'est marqué en plus en bas. Archives départementales. Voilà. Quelle catastrophe. Alors, donc, il vient s'installer à Nancy dans les années 1880. Je passe un petit peu rapidement sur un petit passage à Metz. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, il décide d'être liquoriste. C'est donc un métier qui évolue, hein, comme je l'ai signalé. Et il va s'inspirer de produits... il faudra que je revienne dessus tout à l'heure par rapport à son passage à Metz, où il va rencontrer un pharmacien. qui va l'aider à fabriquer des produits pour sa distillerie. Nous n'avons malheureusement pas d'image, de photographie de Théodule Noiron. Alors, il est assez entreprenant puisqu'il commence par déposer un dépôt de marque dès 1885. Alors, je ne l'ai pas remarqué ici parce qu'il n'avait pas d'intérêt d'un point de vue des illustrations. C'est un dépôt de marque pour un flacon d'alcool. Et en 1891, en revanche, il va déposer quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est la chartreusine. Donc sur l'étiquette de la chartreusine, vous pouvez voir deux choses importantes. C'est que d'abord, il dépose cette marque, la marque évidemment reconnaissable avec la croix de Lorraine, et puis les initiales T et N. Et alors ça, c'est quelque chose que vous retrouvez systématiquement sur les mignonnettes que je vous ai présentées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer ici, sur la capsule, on voit la croix de Lorraine et de chaque côté le T et le N. Donc ça, ça date quand même de 1891, hein, ce dépôt de marque. Autre chose importante sur l'étiquette, on voit que ce sont des extraits concentrés obtenus par distillation de plantes fraîches. Alors ça, il y tenait énormément. Il a édité plusieurs petits catalogues, pareil, qu'on trouve assez facilement, pour parler de ses produits. Et systématiquement, il dit que ce sont des plantes fraîches, et c'est ultra important. Donc, cette revendication est constante. Il fait faire des analyses. Ça, c'est tiré d'une brochure des années 30, dans laquelle il a montré que ces produits sont sérieux, que surtout, ils ne contiennent pas de substances prohibées, que tout est conforme au règlement en vigueur. C'est un point qu'il revendique systématiquement. Et donc ces usines, puisqu'il a des usines, les voici. En 1898, alors les locaux qui sont là ne ressemblent pas du tout à des bâtiments fin 19e, maintenant c'est la seule image dont on dispose. Donc cette usine va être installée rue des Fabriques, au 18 rue des Fabriques, à Nancy. Elle va y rester très très longtemps. Jusque dans les années, c'est quoi, 80, 90 approximativement.
Oui, jusqu'à ce qu'on démolisse tout ça. Enfin, ça a été fermé un petit moment. Ça a été fermé un petit moment, il restait la cheminée, la plaque, et ça a été démoli dans les années 90-2000, quand on a construit la rue du recteur Braun, à côté de l'ancienne faculté de pharmacie, où on était jusqu'au mois dernier. Ouais.
Donc, voici les fameux locaux. La rue des Fabriques, hein, qui est les locaux qui sont, alors malheureusement, on ne peut plus les voir puisqu'ils ont été complètement détruits.
Aujourd'hui, c'est une rue qui est à la place de cette rue. Ouais.
J'en parlerai un petit peu plus loin à la fin. Alors, maintenant que je vous ai présenté ce que c'était que l'industrie de la distillerie Noiron à Nancy, voyons un petit peu le lien avec le monde médico-pharmaceutique. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, Noiron a fait un petit passage à Metz et il aurait obtenu les premières formules de ses extraits auprès d'un pharmacien qui était dans le secteur. En revanche, on n'a pas trouvé le nom de ce pharmacien. Donc, avis, si quelqu'un a une idée, on ne sait pas qui est ce pharmacien. Il existerait, là aussi, c'est du conditionnel, parce que je n'ai pas pu vérifier la véracité des faits, il existerait un grimoire, je mets le mot entre guillemets parce que c'est ce qui est annoncé sur un site, un grimoire chez le fabricant de l'anthésite qui a repris les produits Noiron. C'est sur leur site, sur une ancienne page de leur site que... il note la présence de ce document. Je les ai contactés, je n'ai pas eu de réponse, donc je ne peux pas affirmer que ce document existe, et encore moins que c'est quelque chose qui a appartenu à Noiron. Voilà, donc ça c'est un premier lien avec la pharmacie, qui reste hypothétique. Ensuite, au début, Noirot privilégie les dépôts dans les pharmacies. Ça c'est très net sur ses petits catalogues. Il vend ses flacons dans les pharmacies, et puis progressivement ça va être étendu aux herboristeries, et puis aux drogueries, et puis petit à petit ce sera de plus en plus facile de s'en procurer. Sinon, ces flacons étaient en vente par correspondance. Pas très, forcément très pratique. Alors, en pharmacie, dans les officines, donc les clients ne venaient pas acheter uniquement les flacons, hein, les pharmaciens utilisaient aussi les flacons pour faire leur préparation, en particulier pour préparer les sirops. Puisque les sirops sont souvent aromatisés, donc il fallait des arômes particuliers, ou alors, surtout au début du 19e siècle, les pharmaciens faisaient beaucoup de vins toniques, des vins, ce qu'on appelait les vins hygiéniques. On a déjà évoqué ça avec Thierry sur le vin des îles en particulier, il y a le vin Mariani qui est le plus connu, et donc les pharmaciens fabriquaient leurs vins et ils utilisaient ces mignonnettes. Donc là, c'est une facture avec un peu le détail, voilà, agrandi sur la partie droite pour indiquer que c'est bien un pharmacien qui, voilà, le pharmacien Lézignan, qui vient chercher qui demande des marchandises à la distillerie Noirot. Et là, on est en quelle année ? On est en 1902. Voilà. Et on retrouve l'entête, sur l'entête, bien sûr, le symbole noir de la fabrique. Une autre, un peu plus tardive, en 1947, donc là aussi, M. Guillaume, pharmacien, à Issoudun, qui prend qui commande des flacons. Oui, vous remarquez simplement le changement d'intitulé entre-temps. Ici, ce n'est plus Noirot tout seul, c'est T. Noirot et compagnie. Alors, un troisième lien, éventuellement aussi, on a peu de preuves en dehors de cette image ici de dépôt de marque, qui provient des archives de l'INPI. Donc l'association, donc un dépôt de marque de 1899, donc là aussi c'est relativement tôt par rapport à son activité de liquoriste, de distillateur, il s'associe avec le pharmacien nancéen Ernest Monal, qui avait son officine rue des Dominicains à Nancy. Alors on s'est rendu sur place hier, rue des Dominicains, ça n'a plus rien à voir. C'est quoi, une boutique de sac à main, comme ça. Donc,
ouais, c'est ça. Oui.
Voilà,
c'est une boutique, c'est une maroquinerie maintenant.
Voilà, donc c'est beaucoup moins intéressant.
Voilà.
Et bon, le bâtiment existe toujours, au moins, c'est toujours ça. Donc alors, ce qui est aussi amusant, c'est de voir que les pastilles, donc elles s'appellent les pastilles Noirot au sulfuril. On les connaît, entre guillemets, un peu mieux aujourd'hui, c'est sous le nom des pastilles au sulfuryl Monal. Là, c'est tout de suite plus évocateur. Donc, le sulfuryl et le pharmacien Monal, donc voilà, ce sont les pastilles au sulfuryl Monal. Et donc, c'était des pastilles contre les maux de gorge. Et le sulfuryl provoquer des dégagements d'hydrogène sulfureux, si ça évoque quelqu'un, quelque chose, c'est une odeur d'œuf pourri. Donc, quand on suçait ces pastilles, on avait une haleine merveilleuse, d'où l'intérêt d'aromatiser ça avec des extraits. Voilà. Donc ça, c'était un autre lien, le troisième lien avec la pharmacie. Et il y a eu aussi des liens familiaux. Alors là, on entre un peu plus dans l'histoire de Nancy, que je connais beaucoup moins bien que Pierre Labrune, donc il pourra compléter ce que je dis. Donc, Là, l'image n'est pas très nette parce que je l'ai piquée sur un site de généalogie, Généanet. Je l'ai piquée partiellement. Hein, donc, ici, donc, on voit... où est-ce qu'il est Il est là. Victor Eugène Théodule Noirot. Il va se marier avec Madame Perdriger, Mademoiselle Perdriger, et ils vont avoir une fille qui va s'appeler Marie-Louise. En fait, ils auront deux filles. Je n'ai pas noté la deuxième parce qu'elle a un petit peu moins d'importance et que je n'ai pas forcément le temps de développer toute la généalogie de la famille Noirot. Mais ils auront donc cette fille qui va s'éprendre d'un jeune homme, et réciproquement, Antonin Bergeret, qui lui-même est le fils de Joséphine et de Albert Bergeret. Albert Bergeret est assez connu à Nancy parce qu'il est imprimeur de cartes postales. Il est imprimeur tout court. Et en fait, les deux, Albert et Victor Eugène Théodule Noirot, semble-t-il, se connaissent tous les deux. Ils sont nés à Grès, tous les deux. Donc déjà, ils ont ce lien en commun. Et ils sont tous les deux franc-comtois. Donc on peut penser que leurs enfants, alors se connaissaient-ils depuis longtemps, ça on ne sait pas, mais ils vont bien se fréquenter. Et je vais vous parler un petit peu d'Antonin Bergeret. Antonin Bergeret, il va d'abord faire des études de médecine à la faculté de Nancy. Il va être diplômé en 1919. Et là, vous avez, par exemple, son ex libris. Pour ceux qui ont été très attentifs ce matin, lors de la visite du musée de la médecine, d'histoire de médecine, vous avez pu remarquer dans une vitrine exactement cet ex libris qui est exposé. Il y a toute une série d'ex libris qui sont présentés dans une vitrine, qui sont tous très intéressants. Et donc, c'est un ex libris qui a été réalisé par le sculpteur qui a été professeur à l'école des Beaux-Arts de Nancy, qui s'appelle Daniel Meyer, qui est décédé en 1993. Donc, c'était pour faire un petit rappel avec la journée et avec l'actualité. Et donc, Antonin Bergeret fréquente Marie-Louise Noirot et il lui demande sa main, et seulement le père Théodule Noirot accepte d'accorder sa main uniquement si il devient directeur général des établissements Noirot. Le médecin doit, là encore, comme dans vous, changer de trajectoire, simplement, est-ce que c'est une volonté, est-ce que... Il semblerait que ce soit une volonté. Il va accepter d'être directeur général des établissements Noirot. Effectivement, après ce mariage, on ne le voit plus du tout exercer. Voilà. Donc, et là, c'est là aussi que la société va devenir Noirot et compagnie. On fait un petit saut dans le temps pour dire que se passe-t-il après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Hubert Bergeret, donc qui est, vous l'avez bien compris, le fils de Antonin Bergeret et de Marie-Louise Noirot, Hubert Bergeret va nous donner son témoignage sur ce qu'il y avait encore dans les usines de Nancy dans les années 60. C'est pour vous donner un petit peu une idée de l'importance de cette usine à Nancy. Trois alambics qui faisaient 300 à 500 litres, c'est pas anodin, des cuves, plus de 200 fûts pour la conservation des extraits, des locaux évidemment pour conserver les plantes, évidemment qui étaient plus ou moins pleins en fonction des périodes de l'année, puisqu'il y a le moment des récoltes et le moment où on utilise les plantes proprement dites. C'est vraiment énorme. Et un effectif de près de 50 employés, mais on ne dépasse pas les 50, une production annuelle de près de 5 millions de flacons. Donc c'était vraiment une industrie en plein cœur de Nancy qui était considérable. Alors pourquoi cette industrie s'est-elle arrêtée ? Plusieurs raisons à ça. Donc d'abord, il y a eu quelques arrêts par à-coups. Déjà, le décès de Théodule Noirot en 1948, qui change un petit peu la donne. La société donc, va changer de statut. Oui, j'en ai parlé un peu trop tôt tout à l'heure. Et surtout, quelque chose de très important, c'est le changement des traditions culinaires. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des fabrications familiales et aussi, bien sûr, l'apparition des sodas. Hein. À partir des années 50-60, les sodas déferlent sur le marché français. Et en 1990, la marque Noirot est rachetée par Antésite, qui se délocalise en Isère. Alors, que reste-t-il aujourd'hui à Nancy de la fabrique? Eh bien, il reste simplement cette plaque. Déjà, bien heureux que cette plaque soit conservée. Là aussi, nous nous sommes rendus sur place hier pour aller voir si cette plaque était toujours là, toujours bien accrochée. Oui, elle est toujours là. Oui, elle est toujours bien accrochée. Alors, elle est sur un pan de mur. Un pan de mur qui est bizarrement tout seul. Ça fait assez bizarre, assez drôle. Et qui supporte néanmoins une autre plaque, qui est la plaque qui donne l'intitulé de la rue du recteur Louis Prince. Donc, encore un lien avec la pharmacie, hein, puisque c'est la rue qui menait à la faculté de pharmacie, la rue du recteur Louis Prince. Voilà, donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les établissements Noirot. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui.